dictionnaire de la sagesse ancienne. Cette émission présente les idées fondamentales de la sagesse éternelle, ce corpus d'enseignements qui comprend les traditions initiatiques du passé, mais aussi les enseignements ésotériques, on peut les appeler comme ça, plus modernes. Et pendant cette heure, nous allons tenter de définir pour vous quelques mots-clés en rapport avec cette sagesse ancienne. Bonsoir David.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui nous allons commencer par... Par quoi allons-nous commencer David ?
Plan de conscience.
Plan de conscience. Plan de conscience. Plan de conscience. Il va falloir qu'on définisse ce qu'on entend par plan.
Oui, c'est assez inhabituel, hein. On a tendance à...
Je me demande si c'est pas une mauvaise traduction honnêtement. Hein.
On peut parler de niveau de conscience aussi. C'est l'idée que... Il n'y a pas uniquement la réalité physique de la matière, mais qu'il y aurait encore d'autres strates, hein, d'autres niveaux vibratoires. Hein, l'idée que le plan physique est la vibration la plus lourde, la plus longue aussi, on pourrait dire, et qu'on peut monter dans l'échelle des vibrations, et on parle de plans, de niveaux vibratoires, sur lesquels la conscience pourrait évoluer.
On pourrait presque parler de registres aussi, non ?
Les registres. Oui, registres... L'idée, en tout cas, c'est que on est dans une structure en 7. Ça revient toujours, ça, dans les enseignements ésotériques. Tout est sur le 7. Donc, il y a 7 couleurs, on sait, 7 couleurs de l'arc-en-ciel, 7 sons de musique. Mais cela est parce que le septénaire serait un constituant fondamental de la matière. Et de la matière au sens large, c'est-à-dire de l'énergie, en fait. Et il y aurait 7 niveaux d'énergie, 7 niveaux de conscience. Alors, on peut les citer, il y a le plan physique, celui-là, on le connaît, notre conscience évolue sur le plan physique, mais il faudrait concevoir d'autres plans, d'autres niveaux. Le plan émotionnel, on le vit, même si on le vit à travers notre corps physique, on voit bien que quand on rêve, quand on a des émotions, ça appartient à notre registre, même si ça affecte le corps. Il y a un plan mental, qui est souvent subdivisé en deux, le plan mental inférieur et le plan mental supérieur, où se trouve l'âme individuelle.
Donc le mental abstrait, concret, inférieur et abstrait au-dessus.
Tout à fait. Donc là, les trois plans sont connus, même si on ne parle pas de plans, mais trois niveaux de réalité humaine sont connus de la psychologie moderne, quoique le mental supérieur, celui de l'âme, n'est pas encore reconnu.
Et alors, donc ça, c'est les trois plans inférieurs et au-dessus, donc ?
Alors au-dessus, il y a quatre plans supérieurs. Il y a le plan des intuitions, le plan, on pourrait dire, intuitif ou intuitionnel. On l'appelle aussi le plan bouddhique ou christique. Et au-dessus, le plan qu'on appelle spirituel, on l'appelle atmique, le plan du nirvana. Un plan de volonté spirituelle. Et il reste deux plans qui sont inconnus des humains, qui est le plan de la monade. Et au-dessus, le plan du logos. Du dieu de notre planète. Donc les humains sont concernés par 5 plans. Hein, le plan atmique, on va dire intuitif, mental, émotionnel, physique. Et essentiellement ces 3 plans en dessous qui nous concernent. Parce qu'on fait de temps en temps, par la méditation, des allers-retours dans le plan intuitif. Mais le plan atmique même est un plan qui concerne plus les initiés supérieurs.
Alors comment concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a notre attention... au quotidien, qui est dirigé plus vers un plan que vers un autre.
Voilà, elle y est attirée naturellement. C'est lié au focus de la conscience, à son point d'évolution, tout simplement. Là où est la conscience, en permanence, ou du moins sur une journée complète, il y a une moyenne. Hein, et en général, la moyenne de la conscience, c'est le plan qu'on appelle aussi parfois astral, le plan émotionnel. Là aussi, il y a des couches inférieures ou... supérieure, mais qu'elle est pratiquement tout le temps là.
Ça veut dire que dans le fil de ma journée, suis plus en contact, que ce soit conscient ou pas, hein, avec mes émotions qu'avec même mon corps physique ou avec mes pensées.
Voilà, je peux vivre mon corps physique, avoir des sensations physiques, mais tout ça peut être filtré à travers le filtre de ma conscience émotionnelle. Et pareil, je peux élaborer des pensées, même croire que je pense, et mais elles sont en grande partie nourries, alimentées par ma vie émotionnelle. C'est ça quand on est polarisé, dit-on, quand la conscience est placée sur ce plan-là. Et forcément, elle amène de l'énergie, la conscience, parce que l'énergie suit la pensée, la conscience amène l'énergie là où elle se trouve. Donc on va avoir beaucoup d'énergie, on va sentir beaucoup ce que les gens sentent, on va voir le monde à travers le filtre émotionnel. On entend ça beaucoup, que l'important c'est, on confond l'amour avec l'émotion, le désir, l'imaginaire, le bien-être. Tout ça, ce sont des notions qui sont liées à notre culture et c'est essentiellement des données émotionnelles. Quand on fréquente une communauté scientifique et qu'on travaille avec, on va voir que déjà on n'est pas du tout dans le même plan, on a plus des centres d'intérêt, des discussions de nature purement mentale ou intellectuelle. Et donc tout dépend où se place la conscience. Mais l'idée, c'est que la conscience serait comme une sorte de graduation. Elle pourrait monter et descendre dans ses plans, dans ses niveaux vibratoires. Alors de ces plans sont issus aussi nos corps subtils.
Donc le corps physique qu'on connaît est constitué de matériaux physiques denses, physiques liquides et physiques gazeux, hein, donc essentiellement liquides pour le corps humain. Et puis aussi on a ce corps éthérique, cette enveloppe éthérique, avec nos chakras, avec nos méridiens d'énergie, et qui sont constitués de matière qu'on appelle éthérique, donc à différents niveaux, hein. Il y aurait donc 7 sous-plans dans le plan physique, du dense, liquide gazeux et quatre plans sous-plans éthériques ensuite.
Pareil pour l'astral, on dit qu'il y a un astral inférieur, c'est-à-dire un émotionnel,
Le bas astral, on
voilà, le
appelle quelque
séjour des
chose.
morts par exemple, chez beaucoup, puis il y a des niveaux supérieurs, que contactent les mystiques, que contactent les médiums.
Les sentiments les plus élevés qu'on peut avoir dans la prière, ça relèverait des niveaux supérieurs de l'émotionnel, en fait.
Voilà. Et donc on tire un corps, c'est-à-dire on prend dans cette substance, dans ce plan, et l'âme se construit des corps, des enveloppes pour pouvoir fonctionner. En fait, c'est un véhicule qui permet de fonctionner sur le plan en question. On a un corps physique pour fonctionner sur le plan physique. Donc c'est pareil, on a un corps émotionnel pour pouvoir fonctionner sur le plan émotionnel. Alors, quand on dit corps et plan, il ne faut pas matérialiser trop ce concept, bien sûr. C'est immatériel en quelque sorte. Mais c'est quand même des vibrations. Et on l'a dit pour le mental, il est aussi double. Il y a un mental inférieur, intellectuel et
Concret.
concret. Et le mental qui se rapproche du monde de l'intuition, hein, le mental supérieur, là où se trouve notre âme.
Dans le dictionnaire de cette sagesse ancienne, David, il est une expression qui est inscrite là, c'est atome permanent. Des atomes permanents. Nous aurions 3 atomes permanents.
Oui, alors là, on rentre dans quelque chose d'assez atomique, moléculaire. C'est une façon de se représenter la construction des corps subtils de l'âme, en fait. Donc, on l'a dit souvent, il faut prendre comme hypothèse qu'on est une âme, que l'âme se réincarne cycliquement. Donc, pour se réincarner, il faut qu'elle se refabrique, en quelque sorte, du nouveau matériel, hein, des nouveaux corps subtils. Et forcément, il faut qu'il y ait une mémoire pour pouvoir refabriquer. Sur le niveau vibratoire d'avant dans la dernière incarnation,
Il faut
hein,
pas perdre l'acquis, hein,
voilà,
des incarnations précédentes, donc il faut qu'il y ait un disque dur, et en
une
l'occurrence c'est un
mémoire.
atome en fait.
Voilà, il y en a trois différents, forcément, pour construire les trois corps essentiels de l'âme en incarnation. Donc, tu les connais, hein?
Oui, donc l'atome permanent physique qui est en fait constitué de matière éthérique, hein, donc c'est la matière éthérique, c'est le niveau vibratoire le plus élevé des différents sous-plans du physique. Et puis un atome du corps et un atome astral, donc émotionnel, et puis aussi un atome mental. Donc ces 3 atomes ont un certain taux vibratoire, ils ont une certaine qualité, une certaine couleur, Et ils tiennent en eux, en fait, la mémoire de toutes nos vies passées et tous nos acquis du passé. Et donc, l'âme va, à partir de ça, par agrégation de matière qui vibre en synchronie avec ces trois atomes, se constituer ces nouveaux corps d'incarnation pour la vie d'après. Et c'est pour ça qu'on peut croître, en termes de conscience, de vie en vie. Puisqu'on repart du niveau qu'on avait atteint à la fin de la vie précédente.
Sinon, il n'y aurait pas d'évolution. Hein.
Oui, on repartira à zéro à chaque fois. Et oui.
Donc, on donne souvent l'image d'un fil. On dit que c'est le fil de l'âme ou la corde d'argent, avec trois perles enfilées dessus. Hein. Et autour de chaque perle, par la loi d'affinité, comme tu disais, hein, les particules similaires sont attirées dans l'espace qui lui correspond, si c'est pour le plan physique éthérique, dans le plan éthérique. La matière éthérique est attirée et la matière éthérique elle-même attire les niveaux gazeux, liquides, solides qui lui correspondent pour former le corps dense. Et pareil pour le plan astral. Hein, l'atome astral va attirer dans la matière, dans le plan astral, toutes les particules nécessaires pour se construire le corps qui lui correspond. Et puis pareil pour le mental. Dans le plan mental, on va soutirer la matière. Les plans de conscience sont comme des grands réservoirs, hein, c'est des grands entrepôts d'énergie. Et l'âme, par ses atomes, attire la matière qu'il lui faut. Comme dans une carrière où on prend les pierres nécessaires pour nous construire notre maison, l'âme le fait, et la carrière, bah, y en a trois différentes. Hein. Une carrière physique, émotionnelle, mentale. Donc, c'est intéressant de voir, on a, on peut avoir une expérience, en quelque sorte, ou parfois certains en ont, une expérience de cet atome physique qui est proche du cœur. Pour ceux qui vivent une expérience proche de la mort, ils disent qu'ils voient toute leur vie défiler. Et à ce moment-là, cet atome est stimulé, et on voit bien qu'il a enregistré toutes les expériences, mais d'une façon compactée. Hein, les gens qui sont proches de la mort, ou qui ont vécu un choc violent, qui ont cru mourir, ont souvent dit « j'ai vu toute ma vie défiler comme un fichier compressé hein. ». Donc voilà, on peut faire cette expérience parfois, assez insolite, de cette capacité mémorielle d'un atome qui serait situé dans le corps éthérique, près du cœur éthérique. Et la corde d'argent étant ancrée dans le cœur éthérique, quand elle est sur le point ou quand elle risque de se décrocher, ce qui provoque la mort, il y a parfois stimulation de cet atome, lors d'un grand choc par exemple.
Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce qu'on vient de dire et puis... la généalogie ou les choses qu'on... Lorsqu'on va naître dans un corps, on va aussi avoir des choses qui viennent de ses parents.
Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas d'atome permanent physique dense parce que c'est les parents qui nous le donnent. Donc, c'est l'âme va descendre son fil dans l'ovule hein, fécondé par le spermatozoïde. Et c'est vrai qu'elle sait pas tant qu'elle va attirer les particules de matière... C'est que les particules de matière sont le code génétique qui est donné par le père et la mère, et c'est le seul corps qui est créé en fait par les parents, proprement dit. Et donc dedans, il y a la génétique, il y a des prédispositions physiques, et une forme de tempérament aussi. Il y a quelque chose qui est donné aussi même au niveau donc de l'humeur, hein, qui est un héritage familial. Hein.
Mais qui là ne vient pas de l'âme, donc.
Non, ça vient du corps physique qui est amalgamé, ou du moins autour duquel va s'amalgamer les autres corps subtils qui, eux, sont vraiment créés par l'âme. Et c'est vrai, quand l'âme s'incarne dans une famille, l'âme fait le choix de s'incarner dans cette famille, et elle le fait en fonction de son karma passé, donc des causes antérieures, et elle va choisir un climat, un milieu familial, qui correspond aux choses qu'elle a acquises et qu'elle a aussi à dépasser. Donc la généalogie pourrait s'inscrire, se comprendre... dans ce contexte-là, une âme choisit les expériences qui va lui être utile. Mais je ne crois pas qu'on prenne le karma de la famille, comme on entend souvent dire. Je crois que ésotériquement, c'est pas juste. Mais il y a un effet miroir. Hein, on vient et on se rend compte qu'on a tout de même des défauts communs avec ses parents, et aussi des qualités communes. Et parfois, entre les frères et les sœurs, on a des choses communes, et puis des fois des choses communes, pardon, et puis des choses complètement différentes. Parce qu'il y a vraiment l'énergie propre de l'âme. Donc, il y a un mélange du climat et du karma propre à l'âme.
Et qu'est-ce qu'il en est, David, des personnes qui ont des certains symptômes physiques qu'elles ont été capables d'attribuer à une vie ancienne, lors d'une régression, par exemple? Elles se sont vues, je ne sais pas, quelqu'un qui aurait une déformation à un membre, une déformation du pied, par exemple, et qui pourrait, en régression, voir que ça lui vient d'une vie d'avant.
C'est lié à l'atome permanent. Donc là, en l'occurrence, c'est l'atome permanent éthérique, hein, qui contrôle également le corps physique. Et il peut y avoir certaines mémoires. C'est comme des parties de l'atome qui restent encore stimulées ou qui peuvent être réveillées. Et c'est pourquoi il est préférable de ne pas faire des régressions, parce qu'on peut éveiller des karmas passés qui n'auraient pas à être éveillés. Donc on peut réveiller certaines douleurs anciennes. Alors quand on régresse, on n'est même pas sûr en plus que ce soit vraiment sa propre vie. Il y a une part d'imaginaire importante là-dedans. Le subconscient, hein, y participe. Et puis le plan astral planétaire aussi peut participer à toutes ces visions. Mais en tout cas, on peut réveiller toutes sortes de facultés ou alors de choses à nettoyer, et qui sont pas forcément l'actualité. C'est pas le programme de la vie donnée, par exemple. Mais oui, il peut y avoir toutes sortes de phénomènes de ce genre, qui montrent bien que l'atome est vraiment une sorte de structure. Alors les occultistes ont essayé de le décrire, il y aurait 7 grandes spires, avec 3 autres supérieures, donc une dizaine, puis dedans ça contiendrait encore 7 spiries, etc. Et tout ça, ça serait relié à des plans, des sous-plans, tout est fondé sur le 7, et selon les rayons, et selon donc les énergies qui touchent cet atome, il pourrait être stimulé à un niveau ou à un autre. Et donc l'âme choisit certaines énergies, elle va construire ses corps en fonction du rayon. Par exemple, pour le corps physique, elle va choisir un rayon principal, puis un deuxième. Pour le corps astral, pareil, un rayon majeur, un rayon mineur. Le mental aussi, la personnalité même.
Donc rayon, ça veut dire qualité d'énergie hein, particulière.
Et l'âme va le faire pour justement développer dans cet atome certaines vibrations qui ont besoin d'être développées. Donc c'est comme ça qu'on évolue, comme un peintre qui doit apprendre à maîtriser les 7 couleurs, en quelque sorte. L'âme est le peintre.
Et y a-t-il un lien, quel lien peut-on faire avec l'ADN ?
L'ADN, c'est une structure physique qui reproduit sur le plan physique matériel ces atomes permanents. Donc on peut dire que l'atome permanent physico-éthérique, on va l'appeler comme ça, est le noumen, le prototype de l'ADN. Mais il n'y a pas une équivalence parfaite, parce qu'on a dit que l'ADN est donné par le père et la mère.
Oui.
Donc l'âme l'a choisi, mais ce n'est pas exactement son matériel génétique spirituel, en quelque sorte. Donc il y a une forme d'adéquation, mais elle n'est pas totale. Parce que l'âme, sur le plan physique, elle a sa propre vibration, sa propre nature d'énergie. Mais elle a quand même en héritage dans son corps physique des éléments qui lui viennent de son milieu familial, et qui est parfois complètement en adéquation avec elle, mais parfois qui, quand on prend un ensemble, ben on prend l'ensemble, mais tout n'est pas forcément pareil, tout n'est pas forcément le miroir du karma, de la destinée particulière de l'âme. Hein. On voit bien dans les familles, pourquoi il y a des enfants qui vont vraiment, par exemple, développer certains problématiques génétiques, par exemple, et d'autres pas, alors qu'ils ont pratiquement le même matériel. Donc c'est pas, il n'y a pas une adéquation parfaite entre l'atome permanent physique et puis les atomes.
Ça deviendra parfait lorsque l'âme aura pleine maîtrise, justement, de ces atomes et de cette incarnation, en fait.
En fait, au fur et à mesure des initiations, on sait que le corps physique disparaît. Il est vraiment brûlé, en quelque sorte. Il est vraiment transmuté, et il est remplacé au fur et à mesure par le corps éthérique, qui est un pur corps de lumière. Donc au fur et à mesure, le matériel familial, je dirais, karmique, génétique, il s'amenuise au fur et à mesure que plus l'initié est évolué, moins il est soumis à cette influence-là, en quelque sorte. Il en prend un bout, d'ailleurs, c'est une partie de son service. Les grands initiés viennent dans des familles aussi pour transmuter du karma, c'est-à-dire de la matière dense. Et les maîtres disent que dans cette matière, il y a des maladies ancestrales, même planétaires, des germes, comme la tuberculose, par exemple. Et donc l'âme vient prendre une partie de ce matériel, le transmute, mais plus l'initié est évolué, plus la quote-part physique dense se réduit, et au contraire, l'énergie de ces atomes permanents domine.
Thank you. vous écoutez le dictionnaire de la sagesse ancienne. Et maintenant, nous allons passer avec la lettre V, V comme vibration. Les vibrations, tout est vibration dans l'univers. On dit que tout est énergie, donc tout est-il vibration ?
Oui, tout est vibration, tout vibre. Ça, la physique quantique, par exemple, nous l'a montré. On sait que dans l'infiniment petit, il y a une frénésie quantique. Tout est constamment en train de vibrer à tel point que on ne peut pas pouvoir, selon la physique quantique, les microparticules, pouvoir précisément les localiser ou dans l'espace ou dans le temps en même temps.
Parce qu'elles sont toujours en train de bouger.
Voilà, elles bougent constamment. C'est intéressant de voir que le mot en sanskrit qui correspond à ça, c'est Shakti. Shakti, c'est l'énergie, c'est le mouvement de l'énergie. Ça veut dire chaque dieu a sa Shakti. C'est-à-dire chaque dieu a son action dans le monde, son mouvement vibratoire.
Donc la vibration, c'est quoi ? C'est la matière qui bouge et on appelle ça vibration ?
Oui, c'est le mouvement de toute forme de matière, de substance, d'énergie. Et pour finir sur la Shakti, la racine a donné shake en anglais.
Mm-hmm.
Secouer.
Oui.
Bouger, secouer. Donc c'est intéressant de voir que ce mouvement, shak en sanskrit, shake en anglais, donc secouer, c'est cette notion de frénésie, de mouvement. C'est-à-dire que la matière n'est jamais inerte en fait. Mmh. Même la table, quand on la regarde, on la voit pas vibrer, mais si on se mettait au taux vibratoire de la table, on verrait que tout bouge.
Mmh.
Et que la Terre bouge constamment, que tous les objets bougent d'une façon parfois très très rapide. Donc voilà, tout a un mouvement vibratoire, à une fréquence, dit-on. Et plus on monte dans la gamme de fréquences, hein, plus on monte dans les niveaux de conscience, plus les énergies, on va dire, sont élevées.
Mmh. Plus elles bougent vite.
Voilà, elles sont courtes en termes de longueur d'onde. Hein,
oui.
Et elles sont très très rapides, elles sont très subtiles, elles pénètrent. Par exemple, si on fait, on le sait même dans le spectre physique, le spectre de l'onde électromagnétique, les ondes lentes, bah c'est les micro-ondes, ou les ondes radio par exemple, elles sont très lentes. Mais les ondes très rapides, c'est comme les rayons X, et on s'en sert pour faire des radios, parce qu'on sait qu'elles sont tellement rapides qu'elles pénètrent le corps. Et ben, on peut prendre cette image, et on peut la transposer dans les différents plans de conscience dont on a déjà parlé. Le plan éthérique vibre déjà plus haut, en termes de fréquence, que le plan physique.
Mmh.
À tel point que nos yeux physiques qui vibrent à une certaine fréquence, ne voient pas un plan plus subtil, parce qu'ils ne sont pas appareillés pour ça.
Mmh.
Il faut que ce soit nos yeux éthériques qui voient le monde éthérique. Et puis on peut penser la même chose pour le plan astral, le plan émotionnel. Il vibre encore d'une manière plus légère encore que le plan éthérique.
Mmh.
C'est comme ça qu'on contacte les morts, par exemple. Ils ont même plus de corps éthérique, ils sont même plus attachés à la Terre, ils sont dans un monde plus subtil, qui est le monde astral. Et curieusement, ce monde a un lien avec la radio, avec les ondes radio. C'est assez particulier. On sait qu'il y a eu des expériences avec ça. Des enregistrements de l'au-delà qui arrivaient à se matérialiser dans les ondes radio.
Mmh.
Et puis le mental. Le mental est une fréquence vibratoire plus haute encore que le plan émotionnel. Et puis bien sûr, au-dessus, c'est les plans spirituels.
Et donc le but des incarnations, c'est d'accroître notre auto-vibratoire physique, émotionnel et mental.
Oui, c'est tout à fait intéressant dans la mythologie, dans la philosophie indienne de base, qu'on appelle le Samkhya. Il y a trois états de la matière. Il y a la matière à l'état inerte, on dit que c'est tamas, c'est-à-dire que ça vibre très lentement, hein, c'est l'inertie, l'immobilité. Après, il y a rajas, c'est actif. C'est-à-dire qu'il y a une vibration supérieure qui se mêle, et c'est beaucoup plus actif. Et au-dessus, il y a Sattva, qui est l'équilibre, la lumière, l'harmonie, qui est un taux vibratoire qui est donc plus élevé que les deux autres, et qui, lorsqu'il est atteint, il maîtrise et il apporte justement, comme son nom l'indique, un équilibre. Donc on peut dire qu'on passe toujours par ces stades-là, inerte, activité, donc excitation, il y a une rencontre avec le supérieur et l'inférieur, hein, ça crée une zone de turbulence, de tension, puis on assimile le taux supérieur et ça crée un nouvel équilibre, qui du point de vue du nouveau plan supérieur est tamas, il est inerte, alors que du point de vue du plan inférieur, il est sattva, c'est-à-dire qu'il vibre haut en fait. Mmh.
Donc c'est toujours relatif ce degré de vibration.
Et on sait que le but du processus, c'est que nos chakras, nos centres d'énergie puissent accumuler les fréquences supérieures. Donc il y a des énergies supérieures qui viennent, alors ce sont des feux en fait, ils transmutent, ils phagocytent, ils intègrent ces énergies inférieures, comme lorsqu'on prend du bois et qu'on le met dans la cheminée, hein. Le bois va être complètement transmuté. C'est un peu pareil pour notre personnalité dans ces feux supérieurs. Et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'on spiritualise la matière physique, émotionnelle, mentale, à partir de leurs trois zones supérieures, qui est le plan de la volonté, de l'amour spirituel et de l'intelligence spirituelle. L'intelligence spirituelle va transmuter l'intellect pur du mental inférieur. L'amour avec l'émotion, ça va de soi, et la volonté spirituelle va complètement transmuter le plan d'énergie. Donc voilà, il y a une rencontre entre les trois mondes supérieurs, les trois mondes inférieurs, et au milieu se trouve l'âme, en fait, qui sert de filtre de divin intermédiaire.
Un nouveau mot, élémental, élémentaux au pluriel. Des élémentaux, c'est quoi ces petites bébêtes, David?
Ça vient des éléments, on trouve les éléments, bien sûr, le mot dedans. Alors, on les connaît dans les traditions du passé, ce sont les génies, les gnomes, les lutins, les sylphes, les ondines, il y a les salamandres, ils ont toutes sortes de noms, ils sont parfois anthropomorphisés, mais en fait, ce sont les esprits des éléments. C'est l'intelligence, parfois même très très rudimentaire, et souvent subconsciente, hein, donc inconsciente d'elle-même, et c'est une conscience basique. Qui est dans les éléments, c'est-à-dire que les éléments sont leur corps, littéralement.
Alors, qu'est-ce que tu appelles l'élément dans l'histoire?
Alors, il y a les éléments déjà physiques, du plan physique, l'élémentaire, qui donne le plan solide, hein, liquide, gazeux, igné, feu. Et puis, l'occultisme dit qu'il y a un cinquième élément, c'est l'éther. Il y a plusieurs couches d'éther. Et on dit que ces cinq éléments, il y en a en fait sept parce qu'il y en a deux autres encore pour arriver au septénaire. Mais ces différents éléments, ils existent physiquement, mais ils existent aussi dans le plan astral, émotionnel. C'est comme leurs homologues supérieurs. Il y a une sorte
Correspondance.
de correspondance. Et ils sont sur le plan mental et même encore dans les autres plans. Et l'idée, c'est qu'il y aurait les énergies à l'origine, que la substance serait subdivisé en sept éléments primordiaux, et chacun redonnant encore sept, puis sept, puis sept. Et
Donc,
même les même, pardon, Olivier, pour finir là-dessus, même les grands plans représentent un grand élément. Par exemple, quand j'ai parlé des éléments physiques, ils sont tous vus à travers le grand élémentaire. Quand on est dans l'astral,
élémentaire, hein.
terre, TE2RE, hein.
Comme la Terre. Donc si alors on reste sur la Terre. Si je prends une poignée de terre, c'est de la matière solide, dense, hein, plutôt, physique dense, dans notre jargon, on va dire. Et cette matière-là, elle a un esprit
C'est le
qui est
corps
pas
d'entité.
forcément conscient d'elle-même, de lui-même. Et c'est ça que tu appelles l'élémental de la
Voilà,
Terre, cet esprit.
c'est vivant. Alors l'esprit, il faut pas l'anthropomorphiser, comme je disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire que c'est une intelligence très très rudimentaire. Ça va jusque dans les atomes, hein. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de matière morte. Chaque particule, chaque microparticule, chaque atome et même chaque molécule est le corps d'une entité. Ça, c'est un principe fondamental dans l'ésotérisme.
D'une entité non matérielle.
Non matérielle, non humaine, qui est sur l'arc involutif. Hein? Et ces entités forment les corps des différents règnes. Il y a les corps pour le règne minéral, donc tu as parlé de la terre, hein? Il y a des cailloux, il y a des pierres précieuses, etc. Les corps pour le règne végétal, hein, du gazon jusqu'aux grands arbres, il y a des entités qui composent ça. Pour le règne animal et même pour nos corps à nous, et pas seulement nos corps physiques, comme on l'a dit, pareil pour l'émotionnel et pour le mental inférieur. On dit parfois aussi pitrilunaire, c'est un langage qui vient souvent dans les enseignements ésotériques, car la lune est reliée à l'aspect matériel des choses.
Donc tu veux dire que notre corps physique, il est constitué d'élémentaux.
Oui.
Donc de matière qui répond à son propre esprit, indépendamment de notre esprit à nous en tant qu'être humain.
C'est-à-dire que c'est pas un esprit qui vient se greffer là-dessus, c'est que le corps, tout simplement. L'atome, c'est le corps. Il y a une forme d'intelligence, même très rudimentaire, dans un atome. Le fait que, qu'il y a un mouvement dedans, un atome évolue, bon, forcément, il y a une forme d'intelligence, entre guillemets. C'est le corps d'une entité, et que cette entité n'est pas consciente d'elle-même. C'est vraiment quelque chose de en dessous de l'échelle même du règne minéral lui-même. Hein. C'est vraiment, on a dit, c'est sur l'arc involutif. Ce sont les esprits de la nature, et ces esprits existent aussi dans le corps émotionnel et mental. C'est pourquoi les anciens pensent que quand vous avez une maladie mentale, par exemple, vous êtes, ils pensent que vous êtes, comment dire, pas marabouté, mais vampirisé, ou vous êtes pris par des esprits. Mais il faut comprendre ici que pour eux, les pensées, les formes pensées, ce sont des esprits. Ce sont des formes, des particules qui s'agglomèrent et qui peuvent créer des maladies, qui peuvent.
Donc en fait, on emprunte notre corps physique à des êtres qui ont.
Aux particules et qui ont une forme d'intelligence. Elles ne sont pas mortes. La matière morte n'existe pas.
Et notre travail, alors, en tant qu'être humain, c'est de quoi faire maîtriser ces particules. Donc, maîtriser ces esprits-là.
C'est de les spiritualiser, c'est ça. C'est de les spiritualiser en les mettant sous l'influence d'une énergie qui leur est supérieure, et c'est celle de l'âme.
Donc les spiritualiser, ça veut dire quoi? Augmenter leur taux vibratoire,
Voilà, les faire évoluer comme ça.
augmenter leur conscience, leur degré de conscience d'elles-mêmes?
Alors, ils peuvent pas encore développer vraiment leur conscience, parce que ça, elle est aveugle. On dit que ce sont des vies aveugles. Mais en passant, parce qu'il y a des hiérarchies, bien sûr, c'est pas la même chose. Si on est l'élémental, si on est la molécule d'une pierre, que la molécule d'un animal, par exemple, ou un atome, peu importe, hein. Et pareil, si on est dans le corps physique d'un homme, c'est pas la même chose que si on est dans le corps mental. Si on compose le corps mental, vous voyez, on a forcément des dégâts, mais ils passent comme ça de stade en stade, et jusqu'au moment où ils vont devenir, où ces particules vont entrer sur la voie qu'on dit évolutive. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus former les corps des choses, mais ils vont être littéralement membres du règne minéral, du règne végétal, du règne animal, du règne humain, et voilà. Ça va
Est-ce que
continuer.
tu peux revenir sur ce que tu mentionnais au début, les gnomes, les fées, les lutins, tout ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des représentations de ces esprits?
Voilà. Alors souvent, il y a les petites particules qui composent la chose elle-même, et puis il y a des plus grands frères, des génies, qui contrôlent tout ça. Alors dans la nature, on représente souvent, voilà, des petits êtres qui sont un peu les génies supérieurs de tout ce petit royaume.
Et pourquoi est-ce qu'on les représente? Parce que les gens les ont vus ou croient les voir?
Les enfants en parlent, ils sont présents dans toutes les légendes, ce sont surtout des formes d'énergie. En fait, c'est lié à ce qu'on appelle l'évolution des devas, des anges. Hein. C'est-à-dire que là, on parle, c'est comme si on parlait des anges qui sont sous le seuil de l'évolution humaine, et même qui sont subconscients. Hein. Donc ils fonctionnent en paquet, en groupe, et il y a une intelligence un peu plus grande qui les dirige. Donc il y a des petits génies qui font partie encore du règne élémental, et puis derrière, ou au-dessus, pour se faire une image hiérarchique, il y a des grands devas par exemple le grand deva de l'eau, qui maîtrise tous les élémentaux, toutes les particules d'eau sur la planète.
Mais pourquoi on l'attribue une forme? Parce que ça n'a pas de forme, cette chose-là. Ça ressemble pas à un petit bonhomme ou un petit bonhomme barbu ou à une
Non, ça
petite
c'est
fée
l'imagerie
avec.
populaire, et puis c'est aussi comment peut-être. Quand on voit des choses, on les colore en fonction de notre imaginaire. On pense à Blanche-Neige avec les sept nains. Les sept nains représentent en quelque sorte des petits gnomes. Hein, les nains de jardin que l'on met dans son jardin, la symbolique, c'est ça. C'est comme une sorte de génie du jardin qui va contrôler, qu'une sorte de chef élémental, un peu plus évolué et plus grand que les autres, qui va un petit peu agencer le travail de tous ses petits frères. C'est ça en fait. Mais là, on est toujours dans l'arc involutif. Et à partir d'un moment, ça c'est une évolution qui est parallèle à la nôtre, ils entrent dans l'évolution supérieure des devas, des anges, qui eux sont conscients, ça peut même être des entités aussi évoluées qu'un maître. Et à ce moment-là, plus l'entité est évoluée, plus il gère un énorme royaume en quelque sorte. Donc je disais qu'il y avait une sorte de grand ange de l'eau, grand archange de l'eau, qui contrôle en lui ses. Il y a une forme de hiérarchie, il a des anges de moindre importance qui contrôlent des petits génies, puis eux qui contrôlent jusqu'à les microparticules de l'eau. Voilà, c'est difficile de se représenter ça, mais
Déjà, c'est pas courant de se dire que tout ça, ça qu'il y a une
c'est
vie,
vivant.
que c'est que oui.
Pour les chamans, ça l'est. Les chamans sont en contact naturel avec ces intelligences, ils vont vous dire que la fleur leur parle, en quelque sorte, même si elle leur parle pas vraiment, mais qu'elle leur délivre un message, ils sentent. Ils arrivent par exemple à savoir tous les bienfaits parfois de 3000 plantes par exemple, parce qu'ils sont en contact avec cette intelligence rudimentaire. Ils savent que ça fait du bien là, que ça soulage là, ou que ça apporte ceci, cela. Ils parlent d'esprit de la nature, d'esprit des forêts.
Ah, le docteur Bach qui est à l'origine des fleurs de Bach, hein, c'est quoi? C'est des huiles
C'est
essentielles
des huiles
ou ouais.
essentielles, oui.
C'est comme ça alors qu'il a pu déterminer les qualités de différentes
Probablement,
plantes?
oui.
Ouais.
Il faut avoir une certaine sensibilité particulière pour se mettre au diapason, mais souvent on a tendance à associer ce genre d'élémentaux à la nature, mais en fait il faut comprendre que c'est leur manifestation la plus dense, il faut comprendre que ils composent aussi notre vie émotionnelle et mentale inférieure. Alors que l'âme, c'est un grand ange qu'on appelle l'ange solaire, qui est le grand Deva, le grand ange qui lui contrôle cet énorme royaume. En fait, on est nous-mêmes un énorme macrocosme en quelque sorte, hein. On contrôle c'est plus qu'une forêt en fait. On contrôle un univers
On contrôle,
complet.
oui, on contrôle rien,
Enfin, on est
on...
contrôlé, mais enfin,
Ouais.
on est responsable. L'âme est en tout cas responsable de tout cet univers-là. Et on cherche à nous de pas s'identifier justement à nos pensées, nos émotions, même notre corps, qui sont en fait du matériel composite. C'est un petit peu particulier cette forme de psychologie, hein. Je comprends bien qu'en écoutant, on se dit, mais ça ouvre à une autre perspective complètement nouvelle, quoi. On est composé de particules relativement intelligentes, mais surtout très, très rudimentaires, qui sont aveugles et qui suivent le troupeau, le paquet. Quand on est en colère, on déplace des forces en nous. Et ces forces, nos émotions non pensées vont agir sur le climat. C'est pourquoi un auteur comme Benjamin Creme explique que les pensées de, par exemple, je sais pas moi, de 300, 500 millions de gens vont agir sur le climat. Alors on se dit, mais il est complètement fou, c'est de la magie, c'est de la pensée archaïque. Mais si on comprend que nos pensées, nos émotions sont des particules élémentales, qu'on contrôle plus ou moins, et qui peuvent même nous contrôler, dans les phénomènes de foule, on voit qu'on crée un grand égrégore. Et si ces particules-là contrôlent des vies un peu plus inférieures, en infinité, on voit comment on peut bouger les choses. C'est comme les gens aussi qui, par leurs pensées, peuvent tordre des cuillères, ou agir sur des éléments, faire pleuvoir la pluie, etc. On comprend mieux si on se dit que tout ça fait partie de ce royaume des élémentaux, et qu'ils sont classés, qu'il y a des hiérarchies assez complexes, du mental jusqu'au physique dense.
Y aurait un auteur à conseiller David sur dans ce domaine?
Il y a l'ouvrage le plus détaillé, c'est l'ouvrage d'Alice Bailey, Traité sur le feu cosmique, qui est assez ardu, mais il décrit toutes les classes d'élémentaux. Il explique comment ils fonctionnent, leur hiérarchie, et sur les différents plans, physique, éthérique, émotionnel, mental. Et il les compare aussi avec ce qu'on appelle les anges solaires, donc les particules, les anges en quelque sorte, les devas qui composent les plans supérieurs de l'âme. Parce que bien sûr, le but c'est que ces grands devas arrivent à contrôler, à transmuter leurs petits frères. Donc tout ça est expliqué, c'est classé, ils sont pas les mêmes selon les règnes.
Là, on n'est pas du tout dans la lignée. Quand on dit souvent à ce micro qu'on évolue de règne en règne, du minéral vers le végétal, vers l'animal, vers l'humain, vers le maître de sagesse, là, on est dans quelque chose de complètement parallèle, alors. Quand on
Pourquoi?
parle d'élémentaux.
Moi, je trouve qu'on est. Non, je trouve qu'on est dedans. On dit que simplement que ce sont avant que l'élémental passe dans le règne minéral, c'est-à-dire qu'il devienne l'entité pierre. Pas les composants de la pierre, mais l'entité pierre. Il y a une entité générale. Comme nous, on a une âme individuelle, il y a une âme groupe qui gère les pierres. Parce que dans le règne humain, les âmes sont individualisées. Mais avant, il y a des âmes groupes. Dans les animaux qui sont subdivisés en chiens, en reptiles, etc. Enfin, mammifères, reptiles, oiseaux, etc. Pareil dans le règne végétal, dans le règne minéral, pareil, hein, entre le vulgaire caillou et puis les pierres précieuses, c'est des subdivisions, mais il y a une âme groupe. Mais ça, c'est pas la même chose. Là, quand on est dans cette conscience-là, on a quitté le règne des vies qui composent les corps proprement dits de ces règnes. C'est ça, en fait. Les élémentaux viennent avant. Ce sont des règnes qui sont en involution et qui composent les différents corps, les différents règnes.
Évolution, ça veut dire qu'ils sont dans un processus d'incarnation,
Ils
qui
descendent.
descendent de l'esprit vers la matière.
Leur but, c'est de construire plus de matière encore. C'est leur travail. C'est pour ça qu'ils sont aveugles. Dans le tarot, ça représente le pendu. Pour ceux qui reconnaissent, qui connaissent les lames du tarot, on dit que c'est les vies aveugles. Un homme qui est pendu par les pieds, la tête en bas, ça représente ces forces-là qui involuent. Et après, quand elles ont fini, elles se sont perfectionnées en créant les corps des différents règnes, elles passent et deviennent vraiment un membre du règne minéral. Après, un membre du règne végétal. C'est pas la même chose d'être une conscience gazon que la conscience d'un arbre. C'est pas la même chose d'être un insecte que d'être un chien, un animal domestique. Et voilà. Et puis après, elles sont individualisées, ces consciences, et passent dans le règne humain. Mais on n'est plus tu vois, dans le règne des élémentaux. Donc il y a des règnes de vie élémentales qui involuent. Et puis à partir d'un certain moment, il y a le tournant entre l'involution et l'évolution. Et à ce moment-là, la conscience devient minérale, végétale, animale, humaine, puis celle des maîtres, et voilà, ça continue.
Dictionnaire de la sagesse ancienne. Mysticisme. Alors, le mysticisme, on va le voir plus particulièrement au regard d'un autre mot qui est le mot occultisme. Donc, il semble y avoir une sorte de différence entre les deux, de, comment dire, de, pas d'opposition, ou peut-être. C'est, le mysticisme envisage les choses d'une certaine façon, on va dire, et l'occultisme d'une autre façon.
C'est souvent confondu en fait, hein. Je me rends compte que les gens ont souvent tendance à confondre et ont tendance à penser que dès qu'on est en dehors ou au-delà du monde matériel, on est dans le monde mystique, ésotérique, occulte. On mélange un peu tout ça.
Oui.
On va
On
essayer
va
un
essayer
peu
de
de
clarifier
clarifier.
justement. C'est pour ça
Voilà.
qu'on fait un dictionnaire.
Mystique, c'est la voie de la sensibilité, la voie du cœur, la voie de l'expérience intérieure. En termes de religion, ça serait une voie dévotionnelle. Comme le christianisme, par exemple, c'est une voie mystique.
C'est la voie de l'adoration.
Oui, de l'union mystique à une divinité, à Dieu, peu importe, mais on passe par l'aspect sensible, d'abord émotionnel, pour rejoindre l'amour, qui est la source de toute forme de sensibilité supérieure.
Donc quand on voit des gens, par exemple, qui se disent très proches de Jésus, par exemple, ou de Marie, la Vierge,
Qui ont des expériences mystiques intérieures, de contact.
ouais.
Oui, ça c'est tout à fait du mysticisme. C'est religieux en fait le mysticisme. C'est une approche religieuse, c'est-à-dire pour se relier intérieurement. Alors que l'approche occulte, alors occulte, donc l'occultisme, c'est ce qui étudie le monde caché. À ce moment-là, c'est une approche plus avec un démarrage intellectuel, on étudie les composants de la matière, de l'homme, de l'univers, sa structure. Les origines des énergies, pour les maîtriser. Donc on est plus dans quelque chose d'extériorisé. Et on est dans des voies qui sont plus gnostiques, on va dire. Ésotériques aussi, on dit parfois.
C'est plus scientifique comme approche.
C'est une approche scientifique, même si les scientifiques ne se reconnaissent pas comme des occultistes, mais les scientifiques essayent de percer les mystères de la nature, en fait. Ce que faisaient les occultistes dans les temps anciens. Et par exemple, l'alchimie, c'est devenu la chimie, par exemple. L'astrologie est devenue l'astronomie aussi. Donc on voit que même les sciences ont souvent une origine occulte, où dans le passé, il n'y avait pas de différence entre la science, les sciences occultes, la magie, c'est-à-dire la compréhension des phénomènes, des lois de la nature. Donc ça, c'est une approche où il y a une recherche intellectuelle, une recherche de compréhension, puis après une ascèse pour pour maîtriser ces mécanismes. C'est pas du tout la même chose que le mystique, qui lui vit les choses sans les comprendre. Il les expérimente. Et on dit que le mystique doit se marier à l'occultiste pour devenir un véritable ésotériste. C'est-à-dire un maître de sagesse ou un initié supérieur. Un initié supérieur, c'est quelqu'un qui est en train de devenir un maître, en fait. Ce sont ceux qui ont équilibré, d'une façon assez raisonnable, le mystique en eux et l'occultiste en eux. C'est-à-dire le sensible et le scientifique, en quelque sorte. Celui qui expérimente intérieurement et celui qui expérimente extérieurement, si on pourrait dire, qui contrôle. Donc on a ces deux tendances en nous. Et le but, c'est de pouvoir les équilibrer. Ce qui n'est pas le cas au début, parce qu'on a certaines énergies, on a souvent dit les rayons, qui nous prédisposent à une approche plus intérieure. On dit que c'est les rayons sur les 7, c'est les rayons 2, 4 et 6.
Donc ils sont plus mystiques.
Plus mystiques. Les rayons pairs, parce que le rayon 2, c'est l'amour-sagesse, 4, c'est le rayon de l'harmonie, de la beauté, 6, le rayon de la dévotion, de l'idéalisme. Donc, on voit bien que ces énergies nous font nous tourner vers l'intérieur des choses. Et on a des rayons 1, 3, 5, 7, pairs, qui sont plus... qui sont plus tournés vers l'extérieur. Le rayon 1, la volonté, 3, l'intelligence abstraite, 5, l'intelligence concrète, scientifique, 7, le rayon de l'organisation, de la structuration des choses. Donc on voit qu'on est tourné vers l'extérieur, on va avoir naturellement, si on a une plus grande domination de ces rayons-là, on va entrer dans une démarche, une approche de la vie qui va être plus être de tendance occulte. On va préférer plus étudier, plus comprendre les choses, et on va essayer de les maîtriser. Mais on peut avoir une difficulté pour les vivre, les sentir, les expérimenter de l'intérieur.
On peut être assez froid et déconnecté.
Et peu sensible.
Peu sensible, oui.
L'inverse, pour les types à dominante de 4-6, une grande capacité à vivre, à explorer le monde intérieur, sa vie intérieure, mais une difficulté à pouvoir en comprendre les tenants, les aboutissants, à pouvoir maîtriser les choses, maîtriser même sa vie extérieure. On a tendance, c'est comme ça qu'on a des gens qui se retirent dans les monastères, par exemple.
Ça évite de se confronter avec le matériel, quoi.
Ça, c'est la réponse de la ligne 1, 3, 5, 7. Et eux vont dire qu'ils cherchent Dieu directement, qu'ils cherchent leur vie intérieure, leur inspiration, si c'est un artiste. Il y a plusieurs approches, elle n'est pas forcément religieuse. Mais Dieu se vit de l'intérieur. Et pour les autres, Dieu est à l'extérieur, il est aussi en nous, mais ce sont des forces et on essaie de les contrôler par des techniques, des mantras, des choses. On est dans une approche plus technique, plus ascétique. Là, on est plus chez les mystiques, plus dans une approche dévotionnelle, de la prière, où on voit un culte. Et même les formes de méditation chez les deux sont différentes.
Est-ce que tu pourrais, dans l'histoire, nous donner quelques noms de grands mystiques et de grands occultistes qu'on perçoive un peu la couleur différente de leur vie, en fait ?
Alors, bien sûr, chez les grands mystiques, on a tous les grands mystiques chrétiens, par exemple.
Donc, les saints des
chrétiens. Sainte Thérèse d'Avila, Saint François d'Assise. Mais alors, par exemple, si on prend le christianisme, c'est intéressant, on peut voir encore les deux grands courants, parce qu'on les retrouve constamment, ces deux grands courants. On avait chez les chrétiens... les dominicains, et on les disait, il y a Maître Eckhart, j'ai oublié le nom de cet autre dominicain très très connu, ça va me revenir, et eux avaient une approche théologique, plus intellectuelle, gnostique, et ça c'était connu chez les dominicains, ils avaient cette approche-là plus mentale, intellectuelle. Mais tous ceux qui vivent les expériences mystiques,
Donc les dominicains seraient plus des occultistes, selon
toi ? En quelque sorte, à l'intérieur du mouvement même religieux. Et on a, en dehors donc des grands mystiques, on a Chaitanya en Inde, on a Krishna, on a Ramakrishna, c'était un grand avatar, grand mystique qui expérimentait toutes les formes religieuses. Et du côté des occultistes, on va avoir plus Alice Bailey, Madame Blavatsky, Elena Rorich. Quand on parle d'ésotérisme moderne, d'ailleurs, on fait souvent référence, ou Benjamin Creme, on fait plus référence à ces occultistes-là, qui apportent plein d'explications, de compréhensions sur la structure de l'univers. et qui arrive à sa certaine maîtrise intérieure aussi, hein, pareil, mais par une voie différente. Donc on a, en grosso modo, une voie religieuse et une voie plus gnostique. On pourrait dire que cette émission, elle est plus à caractère ésotérique, occulte
Que mystique.
que mystique, parce
Oui.
qu'on ne va pas faire expérimenter des choses à la radio, et on a tendance à expliquer les mots, les vocables, on essaye d'être, d'avoir cette approche ésotérique avec les mots justes, on explique la structure de l'homme, la hiérarchie du monde, comment les choses sont reliées.
L'intelligence sous-jacente des choses. Alors que
L'intelligence
le
qui...
mystique la vivrait sans, au premier degré, sans la comprendre, l'épouserait en quelque sorte.
Oui, l'épouse, alors chacun a ses problèmes. Le mystique va développer plus des mirages, c'est-à-dire des problèmes liés à son imagination dévotionnelle. Et l'autre va vivre plus les problèmes liés à son isolement mental. Donc à faire des compartiments, des boîtes, à s'isoler parfois de réalités plus transcendantes qui demandent là à être vécues d'une façon abstraite. Et aussi la... une tendance à se couper de sa vie intérieure, émotionnelle. C'est pourquoi le maître lui a réuni les deux tendances, bien qu'il y a toujours, même chez les maîtres, une partie qui domine. Si on prend le maître Jésus, Marie, les maîtres surtout à caractère religieux, ils ont une tendance plus mystique que certains maîtres, qui vont travailler à inspirer des gouvernements,
Des
des hommes
découvertes
d'affaires,
scientifiques ou...
des scientifiques. Donc même les maîtres gardent quand même une nature. Mais tout de même, les deux aspects sont équilibrés en eux. Alors le nom que je cherchais tout à l'heure chez ce fameux dominicain, c'est Saint Thomas d'Aquin,
Ah oui.
qui étudiait Aristote. Alors là, Aristote, on est dans une approche assez occulte de compréhension de la structure du monde, des lois, des énergies.
Alors, où est-ce que tu classifierais, David, tous ces gens qui font tourner les tables, qui font tourner les verres, tout cette recherche de contact en fait avec une certain au-delà peut-être?
Alors, il y a deux grandes familles. Tous ceux qui vont essayer de jouer, d'agir sur les éléments, c'est une recherche inférieure, hein, que moi j'encourage pas du tout, mais c'est une recherche pour agir sur les élémentaux, hein, les forces de la nature. Et on est plus dans une démarche d'ésotérisme ou d'occultisme inférieur. D'ailleurs, on appelle ça souvent les occultistes, c'est une très mauvaise définition, de ceux qui travaillent avec les forces occultes. Donc, quand on essaye d'agir sur les forces,
Donc c'est quoi ces forces? C'est les élémentaux alors?
voilà, ce sont les fameux esprits des atomes, des molécules. On est dans une démarche occulte parce qu'on est dans une démarche de contrôle. Comme tous les grands ascètes, les yogis, on est dans une démarche là, on essaie de maîtriser les choses.
Par sa volonté,
Voilà,
d'imposer sa volonté
c'est ça. Par sa
à...
connaissance des sons, des couleurs, par sa volonté, on essaie d'agir sur la matière. On a une action énergétique. Alors que quand on lit, quand on capte, donc là, c'est l'autre versant des manifestations inférieures, chez les spirites inférieurs, les médiums. On essaie de contacter les morts, d'avoir un esprit avec telle ou telle personne. Là, on est dans la captation. Donc on est dans une manifestation mystique inférieure. Plutôt que de contacter son maître, ce
On
qui
est
est...
réceptif, hein, c'est ça? C'est pour ça que c'est mystique.
Voilà, c'est ça.
On n'essaye pas d'agir dessus, mais on
On est
reçoit.
passif. Et là, on peut avoir... les deux sont au même niveau, c'est au niveau du bas astral, hein, ou même si ça monte dans le haut astral, ça va pas plus haut. Donc alors que l'ésotérisme, vraiment, ou le mysticisme supérieur, Krishnamurti, c'était un grand mystique, lui, c'est sur le plan de l'âme. Il contactait son maître, cette présence dont il parlait, on sait que c'était le Seigneur Maitreya, comme Krishnamurti l'appelait, c'était pour moi un grand mystique. Alors que Madame Blavatsky contactait aussi son maître, télépathiquement, là aussi, elle, c'est une grande occultiste, mais elle avait aussi un contact, parce que à ces niveaux-là, forcément, il y a les deux qui commencent à se mêler, hein. Mais grosso modo, si on compare Krishnamurti avec Madame Blavatsky, l'un est mystique, Krishnamurti, il est vraiment dans le... il développe toute une philosophie de la conscience, et elle, Blavatsky, manifestait toutes sortes de facultés
Donc les
de
deux ont un
pouvoir.
très grand niveau de conscience. C'est pas une question de mettre de rapport d'échelle entre
Je
les
les
deux.
prends parce qu'ils ont le même niveau, ils sont du quatrième degré. C'est presque des maîtres, mais on voit bien que il y en a un qui a majorité sur la ligne de 4-6 et Madame Blavatsky sur la ligne 1 et 7 surtout, 1, 3, 5, 7. Et on voit qu'au même niveau, on a des natures d'être et des enseignements complètement différents.
D'accord, donc dans les deux cas-là, c'est des cas supérieurs, je dirais, hein, occultisme supérieur ou mysticisme supérieur. Alors si on vient au niveau des manifestations inférieures maintenant, donc d'un côté, tu as le mysticisme qui va être donc le contact avec les morts, avec, avec les entités désincarnées, disons.
Ouais.
Ça, c'est mystique. Et de l'autre côté, l'occultisme, c'est vouloir maîtriser les élémentaux par sa force de pensée ou l'utilisation de mantras ou de visualisation.
Ceux qui tordent des cuillères, par exemple. Hein, j'avais dit, ça, c'est une manifestation. C'est, on parle de télékinésie. Ceux qui vont faire bouger des objets. Si on peut même les dématérialiser, les rematérialiser. Il y a même des Tibétains qui étaient capables de faire ça sans être des maîtres. Alors que les autres, ça va être des captations. Par exemple, les psychomètres, ils vont prendre un objet et ils vont savoir connaître l'histoire de l'objet, à qui il a appartenu, d'où il vient, etc.
Ça, c'est mystique alors.
C'est une approche
passive.
Yin, passive, féminine, on va dire. L'autre, c'est actif, yang, c'est masculin.
Alors, et qu'est-ce qu'il en est des gens qui manifestent des stigmates, par exemple? Donc, les stigmates sont des... blessures...
la passion du Christ.
Oui, qui reproduit celle de...
Ce sont des mystiques qui matérialisent des choses sans le vouloir, en quelque sorte. Où ils s'identifient tellement à la passion du Christ qu'ils arrivent à créer dans leur chair, à créer les stigmates. Ils les matérialisent eux-mêmes.
Parce qu'ils y pensent, mais ils ne sont pas conscients qu'ils y pensent, mais la pensée est suffisamment forte pour que...
Ils sont tellement dans l'imitation du Christ qu'ils arrivent à l'imiter jusqu'à physiquement.
Et pourtant, ce n'est pas quelque chose qu'ils recherchent, apparemment. Ils n'ont pas désiré d'avoir les stigmates.
Quand même. Ils le désirent dans ce sens où ils s'identifient jusqu'au plan physique, à lui, à sa passion, à sa souffrance. Moi, je pense qu'ils le désirent très ardemment.
Mais inconsciemment, alors?
Pas forcément. Forcément. Ils s'identifient complètement. Ils veulent. On a parlé.
Ça veut dire qu'ils se prennent pour le Christ, alors.
En quelque sorte, c'est l'imitation du Christ. C'est un thème qui revient souvent dans la mystique chrétienne. Il y a ceux qui vivent aussi que d'hostie, etc. Donc en même temps, c'est vrai que ça a un impact sur le corps, mais c'est pas la même chose qu'un yogi qui va contrôler sa respiration, qui va, là, si je le mets au même niveau, hein, qu'on va enterrer sous la terre, qui va contrôler son processus par des techniques, des choses.
Celui qui va s'asseoir sur ou s'allonger sur un lit de clous.
Voilà.
Ça, c'est.
Côté plus fakir. À un niveau inférieur, je mettrais ça plus vers une forme de contrôle psychique de soi.
Donc lui, il serait plutôt du côté occultiste, l'occultisme inférieur.
Il s'est pas uni à une image. Il a plutôt appris les mécanismes de son corps et il essaye de les contrôler. C'est plus yang, c'est plus effectif. Il y a vraiment une action sur soi, alors que l'autre, il s'identifie à quelque chose au point de le devenir. C'est vraiment deux psychologies différentes. Donc pour les auditeurs, soit ils ont une nature pour l'instant mystique, soit plus occulte, mais le but c'est d'être un véritable ésotériste, d'unir les deux aspects.
Eh bien, cette émission s'achève.
Merci Olivier, merci à tous.
Merci David, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau dictionnaire de sagesse ancienne.